distribuer les nouvelles feuilles sur lesquelles nous allons nous battre. Donc, je rappelle, c'est une femme. Je suis une femme. Voilà, donc, alors avant de commencer, j'aimerais donc faire une petite rectification par rapport à la dernière fois, donc mardi dernier. Heureusement, vous êtes là hein, aussi pour contrôler ce que nous disons. J'avais dit que Philippe, l'évangéliste, c'était le même que Philippe l'apôtre. Non, pas du tout. Pas du tout. Philippe l'évangéliste est le diacre qui avait été nommé en même temps que Étienne, vous vous rappelez de sa nomination. Donc, je m'excuse, mais ce n'est pas du tout, du tout. Philippe n'est pas le même. Alors, ce Philippe apôtre, en fait, on sait très peu de choses sur lui. Vous savez, sur les apôtres, comment ils ont, par exemple, fini la vie, leur vie, comment ils sont décédés, on n'a pas beaucoup d'informations. Bon, il y a des écrits historiques, mais voilà. Dans la Bible, ce n'est pas toujours marqué comment ils ont fini leur vie. Voilà, donc cette petite modification étant faite, nous continuons notre étude, donc cette fois-ci au chapitre 4. Donc si nous allons maintenant dans l'évangile de Marc, cette fois-ci au chapitre... avant d'aborder le chapitre 4, je ne vais pas trop vite quand même... On va rester un tout petit peu au chapitre, à la fin du chapitre 3. Et on va voir quelque chose de très important. Parce que, rappelons-nous, la dernière fois, on s'était arrêté sur les parents, la mère et les frères de Jésus qui étaient venus le prendre, se saisir de lui parce qu'ils disaient qu'il était complètement devenu fou, vu qu'il n'arrivait même pas à prendre son repas, tellement il était occupé à s'occuper des personnes malades et à les enseigner. Et cette fois-ci, il y a un autre groupe, ce ne sont pas les parents, mais cette fois-ci, ce sont les scribes qui vont venir pour faire quelque chose de pire encore, qui vont commettre ce que la Bible appelle ici le blasphème contre le Saint-Esprit parce qu'ils vont dire des choses incroyable sur Jésus, sur son ministère, sur d'où vient sa puissance, etc., son autorité. Donc là, nous allons voir le blasphème contre le Saint-Esprit au chapitre 3, les versets 22 à 30. Donc, si quelqu'un peut lire le chapitre 3, le verset 22 à 30. Voilà. Alors ici, les scribes, donc, ces docteurs de la loi, hein, ces érudits, sont venus de Jérusalem, vous vous rendez compte, hein, de Jérusalem, jusque là-haut en Galilée, pour accuser Jésus d'être possédé par Belzébul. Alors nous avons vu dimanche dernier par notre frère, donc... ce que voulait dire Belzébul, hein. Belzébul, c'est une divinité des Philistins. Cette divinité, en fait, a été en quelque sorte mise en dérision par les Juifs, qu'il l'appelait non pas Belzébul, mais Baal-Zébub, qui veut dire littéralement le maître des mouches ou le seigneur de la saleté. C'est quand même quelque chose de très, très injurieux envers notre Seigneur. Et les scribes accusaient donc Jésus de chasser les démons par le pouvoir de Belzébul. Alors Jésus va évidemment réfuter leur accusation. Il va leur montrer l'absurdité de leur analyse en disant, mais attendez, si je chasse les démons par le prince des démons, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Satan, qui est le prince des démons, est divisé contre lui-même. Il s'attaque contre sa propre maison. Ça, c'est complètement absurde. Personne ne peut imaginer qu'une équipe, pour qu'elle gagne, il faut qu'elle s'attaque contre elle-même. Ça n'a aucun sens. Donc, Jésus va dire, vous êtes complètement absurde. Il va leur donner aussi une parabole en disant, mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié auparavant, avant qu'il ne commence à piller sa maison. Alors, à quoi fait-il allusion? L'homme fort, c'est évidemment Satan. Sa maison, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et c'est bien, ce sont les gens que Satan tient sous son pouvoir. On sait que Satan est le prince de ce monde et il tient les hommes sous son pouvoir pour l'instant. Et l'homme fort, plutôt celui qui est venu pour lier l'homme fort, c'est notre Seigneur Jésus qui a vaincu Satan. D'abord par son ministère quand il chassait les démons, mais surtout en triomphant de toutes les autorités démoniaques et du diable lui-même par sa victoire sur la croix. Le diable a été complètement battu en brèche et donc sa maison a commencé à être pillée. Mais ce pillage n'est pas encore terminé, puisque le diable est toujours en action dans ce monde. Et ce pillage, on sait, la Bible nous renseigne, que ce pillage ne sera définitivement achevé que lorsque Satan sera jeté dans le feu, dans l'étang de feu et de soufre. Jusqu'au dernier moment, le diable va essayer de résister, de s'opposer au Tout-Puissant. Mais il sera en définitive, en fin de compte, jeté dans les temps de feu et de soufre. Si on peut aller dans Apocalypse chapitre 20, verset 10. Si quelqu'un peut lire Apocalypse chapitre 20, verset 10.
Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles.
Voilà. Donc, après avoir démontré leur absurdité, le Seigneur va sévèrement les mettre en garde parce qu'ils viennent de franchir un seuil. Lequel? Retournons donc à notre texte. Nous allons maintenant lire les versets 28 à 30. Nous allons les relire. Versets 28 à 30, est-ce que quelqu'un peut les relire?
Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Et blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait qu'il est possédé d'un esprit impur.
Voilà. Donc le Seigneur, dans ce passage, vient de condamner sévèrement les scribes en disant qu'ils viennent de franchir un seuil, un point de non-retour, parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi ce blasphème contre le Saint-Esprit? D'abord, si on analyse la position des scribes, les scribes, ce n'étaient quand même pas des hommes idiots, hein, c'est des hommes, des érudits, des hommes instruits. Donc, ils étaient conscients de l'absurdité de leur accusation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il savait pertinemment qui était Jésus. Et en le taxant de Belzébul, qu'il chassait les démons par le pouvoir de Belzébul, en fait, il savait pertinemment ce qu'il faisait. Ce n'étaient pas des ignorants. C'était des gens qui agissaient en connaissance de cause. Donc, consciemment, délibérément, il taxait Jésus, donc, qui était animé du Saint-Esprit, il le taxait d'être animé d'un esprit impur. En d'autres termes, ils identifiaient la personne du Saint-Esprit à un démon. Et ça, c'est très, très grave. Mais c'est de manière délibérée. C'est pas, ah, je savais pas, et puis, excuse-moi. Non, 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 pas du tout. Ils savaient pertinemment. Mais par hypocrisie. Et aussi par intérêt. Hein. Ailleurs, c'est dit dans la Bible qu'en fait, les chefs religieux avaient peur de la population. Parce que les gens, à un moment donné, ils étaient avec Jésus. Mais eux, par hypocrisie, ils savaient ce qu'ils faisaient, mais ils le faisaient quand même parce qu'ils étaient jaloux, parce qu'ils voulaient garder leur position, tout simplement. Et donc, ils sont coupables d'un péché qui ne peut pas du tout être effacé, parce que la seule personne de la Trinité par laquelle nous pouvons être au bénéfice de l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur, la seule personne qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est bel et bien le Saint-Esprit. Mais si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, si tu dis que non, le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de sainteté, n'est pas l'esprit qui me conduit vers Dieu, vers le salut, alors pour toi, il ne reste plus aucune possibilité de salut. Il n'y a plus, pour les chefs religieux, il n'y avait plus aucune possibilité de salut. Toute personne qui a été abondamment éclairée et qui, de manière délibérée et de manière consciente, blasphème contre le Saint-Esprit, persiste et signe dans son incrédulité, cette personne, à un moment donné, va franchir ce point, ce seuil, ce point de non-retour, où il n'y a plus aucune possibilité, ni présente, ni future, aucune possibilité que cette personne soit sauvée. Il est coupable du péché le plus grave, le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, en disant ça, avec des pincettes, beaucoup de chrétiens honnêtes ont été perturbés parce qu'ils ont eu peur qu'à un moment ou à un autre de leur vie, en ayant commis tel ou tel péché, que ça corresponde à un blasphème contre le Saint-Esprit. En fait, on peut être rassuré vraiment par rapport à ses frères et sœurs. Si tu as peur que tu n'aies commis le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est la preuve que tu ne l'as pas du tout commis. Parce que justement, tu t'en inquiètes. Parce que ceux qui commettent le blasphème contre le Saint-Esprit, au contraire, ils sont conscients, mais c'est le dernier de leurs soucis de s'en inquiéter. Au contraire, ils disent « je persiste et je signe ». Et sincèrement, j'ai rencontré des personnes qui ont persisté et qui ont signé dans leur refus d'accepter la conviction de péché, de justice et de jugement. Ces personnes, il faut faire attention, c'est vraiment un avertissement assez solennel. Hein. Ces personnes, oui, peuvent avoir franchi le point de non-retour. Ah, il n'y a que Dieu seul qui connaît si telle ou telle personne a franchi le point de non-retour. Ce n'est pas nous. Et nous voyons avec le condamné à mort, hein, à la croix, avec Jésus, hein, qu'au dernier instant, il a obtenu miséricorde. Donc ça veut dire que même à la dernière minute, une personne endurcie peut quand même obtenir miséricorde. Donc ne jugeons pas, il n'y a que Dieu seul qui est capable de connaître qui a franchi le point de non-retour. Donc, cet avertissement étant donné, Alors les frères et sœurs et la maman de Jésus reviennent à la rescousse parce que non, ils se disent non, mais c'est notre fils, en fait, non, le membre de notre famille, il est devenu complètement fou, c'est devenu un fanatique religieux, il faut l'arrêter tout de suite. Et ils envoient une délégation, parce qu'il y avait trop de monde, eux-mêmes, ils ne pouvaient pas accéder à lui. Ils envoient une délégation pour dire à Jésus, ta mère et tes frères sont dehors et ils t'attendent. En fait, ils voulaient arrêter, stopper le ministère de Jésus. Et ça, on le lit donc, on continue notre lecture au verset 31 à 35, on retourne dans Marc 3, 31 à 35.
Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et on dit, qui est ma mère et qui sont les frères? Et jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère.
Voilà. Alors les paroles de Jésus ici sont très importantes parce que la réaction de Jésus, ce qu'il dit ici, va prouver au moins trois choses et va démonter en brèche certaines doctrines. D'abord, les paroles de Jésus condamnent l'adoration de Marie. Pourquoi? Parce que, bon, quand on lit ce passage, on se dit, mais est-ce que Jésus ne méprise pas sa maman ici? Est-ce qu'il il a du respect pour sa maman? Alors, bien évidemment que oui, d'autres passages le prouvent. Jésus a énormément de respect pour sa maman. Mais Jésus souligne ici que les liens spirituels sont, passent avant les liens charnels. Et pour nous, c'est une leçon très importante. Parce qu'on peut se prendre au piège des liens naturels, les liens charnels, les faire passer avant les liens spirituels. Et à ce moment-là, on peut tomber dans un piège. Parce que beaucoup de personnes ont abandonné le Seigneur à cause de leur famille. Parce que la pression familiale était trop forte. La pression voulait les détourner de Jésus. Et ces personnes-là, ayant placé les liens naturels avant les liens spirituels, ont fait machine arrière par rapport à la foi. Donc, les liens naturels doivent passer au second plan par rapport aux liens spirituels. Voilà. Donc, l'adoration de Marie n'est pas justifiable. On ne peut pas adorer Marie sous prétexte qu'elle est la maman de notre Seigneur. Non, pas du tout. Jésus nous dit ici, placez les intérêts de Dieu avant les liens spirituels. Et l'apôtre, l'évangéliste Luc va même relever une phrase de Jésus au chapitre 14, verset 26 de l'évangile de Luc. Si on peut aller dans Luc, chapitre 14, verset 26.
Quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
Oui, alors dans ta version, c'est traduit par haïr. Oui. Moi, je me préférais à son père.
Son père a renoncé à.
Ah, d'accord.
Son père n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère.
Voilà. Alors, il faut faire attention parce que. Bon, évidemment, il ne faut pas avoir un cœur tordu, comme cette personne qui disait, ben, ce dont j'aurais pu t'assister est corbon, c'est-à-dire, je ne peux pas t'aider mon père, ma mère, parce que j'ai fait une offrande à Dieu. Non, 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 il faut avoir un cœur droit. Par ailleurs, la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un inconverti. Hein. Donc, ce n'est pas une raison pour négliger sa famille. Non, ça nous dit simplement que dans la balance, les liens naturels doivent passer au second plan par rapport aux liens spirituels. Voilà. Et Jésus nous dit ici que, en fait, Si Marie est remarquable, la maman de Jésus, c'est plus pour avoir accompli la volonté de Dieu que pour avoir été la maman de notre Seigneur. Donc c'est parce que Marie a obéi, s'est soumise. Je suis la servante du Seigneur. C'est en cela qu'elle est remarquable. Et pas parce qu'elle est la maman de Jésus. Donc ici, nous avons un passage très important qui refute le dogme de l'adoration de Marie. Mais ici, ce passage aussi refute le dogme de la virginité perpétuelle de Marie. On apprend ici, et on va voir aussi ailleurs, que Jésus avait des frères et même des sœurs. Regardez par exemple Matthieu chapitre 13, versets 55 à 56. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 13, 55 à 56?
N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela?
Voilà. Donc on voit ici Jacques, Joseph, Simon, Jude, etc., les sœurs. Donc, Marie a eu d'autres enfants après le Seigneur Jésus. Elle a eu beaucoup d'autres enfants qui sont cités ici. On cite les garçons, bon, les noms des garçons, mais pas les filles parce que c'était dans la coutume juive, c'était un peu comme ça. Hein. Voilà, donc les frères et sœurs de Jésus, eh ben, c'est Jésus dit, c'est eux, bien sûr, mais c'est avant tout ceux qui font la volonté de Dieu. Donc ici, nous avons une leçon qui nous dit que si tu fais la volonté de Dieu, si tu fais la volonté de Dieu, tu es un frère, une sœur ou une mère de Jésus. Le problème, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Voilà. Donc, le Seigneur va remettre les choses à leur place, véritable place. Et maintenant, on va passer à... Ah, oui.
Petite remarque aussi. Je m'attendais à voir dans les versets que tu as mis,
ouais,
sur l'idolâtrie de Marie, Luc 11, 27 à 28.
Tu peux nous le dire?
Qui est vraiment très... Alors là, il coupe court à toute adoration.
Oui.
Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit... Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.
Amen. Voilà. Ouais, merci beaucoup, merci. Donc ça refute vraiment le dogme de l'adoration. Alors maintenant, on va passer au chapitre donc, 4. Et nous allons étudier 4. Parabole. 3 sur la semence et 1 sur la lampe. Commençons par les paraboles sur la semence. Il y a 3 paraboles sur la semence. La parabole du semeur, du verset 1 au verset 20 du chapitre 4. La parabole de la semence qui grandit, du verset 26 au verset 29. Et la parabole du grain de sénévé, du verset 30 au verset 34 du chapitre 4. D'abord, la parabole du semeur, qui est une parabole très, très connue. Je crois que c'est l'une des paraboles les plus connues des paraboles de Jésus. Chapitre 4, les 20 premiers versets du chapitre 4. Est-ce que quelqu'un peut les lire?
Les oiseaux aimèrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un et elle n'avait pas beaucoup de temps. Elle devint aussitôt parce qu'elle ne trouva pas la sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, quand il déracina. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et les poussèrent, et elles ne donnèrent point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour eux. Puis il dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec le goût l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, à tel qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés de leur foi pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprenez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand il entre lui, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits semés. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, et ils n'ont pas de racine en eux, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils découvrent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, et en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 fois.
Voilà. Alors, ici, nous avons l'une des études bibliques les plus limpides que je connaisse. Vraiment, c'est clair comme l'eau de roche. Si vraiment le Seigneur nous avait expliqué toute la Bible de cette manière-là, je pense qu'il y aurait très peu de divisions dogmatiques, parce que c'est tellement clair. Le Seigneur va dans les explications les plus, comment dire, les plus poussées. Et en fait, ça se passe même, je dirais même que ça se passe de commentaires. Franchement, tellement c'est clair comme l'eau de roche. Alors d'abord, quelques explications néanmoins. Parabole. Parabole vient du grec parabolé. Une parabole, c'est une comparaison, une métaphore, une illustration, une similitude, une allégorie, une ressemblance, etc. Tous les synonymes, hein, de parabole. Donc, comparaison, métaphore, illustration, similitude, allégorie, ressemblance, etc. Une parabole peut avoir plusieurs interprétations. Mais attention, ces interprétations sont complémentaires et jamais contradictoires. Jamais. Si une interprétation est contradictoire, contredit une autre, ça veut dire que ou bien toutes les deux interprétations sont fausses, ou bien l'une d'elles est fausse. Les paraboles, donc, peuvent admettre plusieurs interprétations. Pourquoi? Parce que la vérité qui se cache derrière une parabole ne peut pas être dans sa globalité interprétée par la parabole. Une parabole ne peut pas interpréter toutes les nuances de la vérité qui est cachée derrière la parabole. C'est pour cela qu'il y a plusieurs interprétations possibles, mais toutes les interprétations sont toutes complémentaires et servent à enrichir celui qui étudie la parabole. Quelques autres explications. Alors ici, il est parlé de semeur. Le semeur, c'est celui qui prêche la parole, hein, la parole de Dieu. Il est parlé de la semence. La semence, c'est la parole de Dieu. Il est parlé de la terre, du sol. C'est le cœur humain qui reçoit la semence. Il est question d'entendre la parabole. En fait, entendre, ce n'est pas simplement écouter, mais c'est écouter et comprendre ce qu'on entend. ce qu'on écoute. Ensuite, il est question de recevoir. Recevoir, c'est accepter pour soi, hein, comme quelque chose qui s'applique à soi. Il est question aussi des pierres, des terrains pierreux. Les pierres, c'est l'incrédulité, c'est le symbole de l'incrédulité. La bonne terre, c'est le symbole du cœur qui reçoit la parole avec foi et qui persévère. Il est question aussi du royaume de Dieu. Alors, c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est le royaume de Christ, hein, qui a commencé dès la première venue de Christ. Quand il a commencé à prêcher, il a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Parce que le roi était là. Mais malheureusement, le peuple d'Israël a rejeté son roi. Donc, dans la première venue de Jésus, le royaume a été rejeté parce que le roi a été crucifié et il a été rejeté hors de son royaume. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Nous savons qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu pour continuer à réunir tous les fils, toutes les filles du royaume, mais d'une manière invisible, parce que le royaume de Dieu est maintenant, au moment où nous, dans la dispensation dans laquelle nous sommes, le royaume de Dieu est au-dedans de nous. C'est quelque chose qui est invisible, mais qui est à l'intérieur de nos cœurs. Et viendra le temps, et nous croyons que ce temps n'est pas si loin que ça, où le royaume de Dieu, le royaume de Christ va revenir, rétablir, établir son royaume, ce qui avait été promis à David, tu ne manqueras jamais de descendants assis, etc. Et dans plusieurs chapitres, plusieurs versets, on parle, mais nous n'avons pas le temps de les voir ici. La partie visible du règne de Christ, quand Christ va revenir. En tout cas, c'est ce que nous croyons ici. Le royaume de Dieu, donc, rejeté, caché et à venir. Oui. Ah, en fait, il s'agit d'une prophétie. Jésus ici cite une prophétie. Et il y a... Bon, là, on va en parler parce que j'allais en parler. Mais comme tu soulèves la question, on va en parler tout de suite. En fait, et ça c'est vrai pour nous aussi, hein, quand on refuse la parole de Dieu, on refuse, on endurcit son cœur, comme Pharaon, à un moment donné, c'est Dieu qui endurcit notre cœur. C'est incroyable, non? Et quand Dieu endurcit notre cœur, ah, c'est fini. Et donc, le peuple d'Israël a été enseigné, a été plusieurs, enfin même dans l'Ancien Testament, les prophètes sont venus les uns après les autres, revenez à votre Dieu, Jean-Baptiste est venu, revenez à votre Dieu, Jésus est venu, revenez à votre Dieu, personne, ils ont tué les uns, ils ont crucifié les autres, etc., etc. Et à un moment donné, Dieu dit, et il ordonne au prophète Esaïe, il dit, va à ce peuple, bouche-lui les oreilles, bouche-lui le cœur, ferme-lui les yeux, de peur qu'il ne voie, qu'il ne comprenne et qu'il ne se convertisse. Et cette fois-ci, c'est Dieu qui a endurci. Donc en fait, même la crucifixion, le rejet de Jésus était prophétique. En réalité, c'était inscrit au calendrier divin que Jésus serait rejeté, parce que Dieu avait endurci le cœur de ce peuple rebelle. Ouais. Donc c'est très très important de ne pas endurcir son cœur. À un moment donné, c'est Dieu qui endurcit notre cœur. Comme Pharaon, laisse aller mon peuple, les 10 plaies sont venues, ont démontré toute la puissance de Dieu. Pharaon ne voulait pas. Et à un moment donné, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Et là, c'est trop tard. Pharaon ne pouvait plus refaire machine arrière. Voilà. Donc, l'explication de ça, c'est pas, comment dire, quelque chose d'une punition comment dire,
arbitraire.
Hein? Arbitraire, voilà. Non, non, pas du tout. C'est vraiment, mais sincèrement, c'est, bon, c'est un mystère, c'est vrai, mais quelque part, sincèrement, c'est mérité. Hein? Pardon?
Dieu résiste aux
orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Merci. Donc, alors ici aussi, il est parlé du mystère. Le mystère, c'est une vérité cachée, hein, cachée jusqu'à ce qu'elle soit révélée, notamment dans le Nouveau Testament. Elle est révélée en tout ou en partie. Hein. Tous les mystères ne sont pas forcément révélés. Alors, revenons à notre parabole sur du semeur. Les disciples n'ont rien compris par rapport à cette parabole. Et donc, ils viennent en privé, demandant à Jésus de leur expliquer cette parabole. Et Jésus va leur dire, mais attendez, si franchement vous ne comprenez pas cette parabole, bon, pour nous, ça paraît totalement limpide parce qu'on a l'explication. Mais je me mets à la place des disciples, c'était quand même pas si évident que ça. Mais Jésus va leur dire, mais si vous ne comprenez pas cette parabole, ben, toutes les autres, vous ne les comprendrez pas. Et il se met à leur expliquer vraiment en détail cette parabole, si bien qu'on n'a pas tellement besoin de s'attarder là-dessus. Alors, j'ai fait juste un petit schéma. Non, c'est pas là. Voilà, alors, je ne sais pas si... c'est juste un petit résumé. Hein. Donc, alors, ici, il y a quatre terrains. Parabole très, très connue. Hein. Donc, on va passer là-dessus rapidement. Quatre terrains. Et ceux qui sont le long du chemin, ça représente donc ceux qui ont un cœur qui est très, très dur. La semence ne peut pas germer. Les oiseaux viennent et mangent la semence. Et ça nous a été expliqué aussi dimanche dernier. Hein. Ça rentre par là. J'ai retenu la leçon. Ça rentre par là, ça ressort par là. Voilà. Ensuite, ceux qui sont dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui n'ont pas beaucoup de terre, qui reçoivent la parole de Dieu avec joie, mais qui n'ont pas beaucoup de terre. Et dès que le premier rayon de soleil vient, la parole, est, le grain, enfin, la plante est brûlée, elle est séchée, parce qu'elle n'a pas de racines. Donc, c'est ceux qui reçoivent la parole dans des endroits pierreux. La tribulation vient, la persécution vient, et ils y trouvent une occasion de chute. Ensuite, ceux qui reçoivent la parole dans les épines, ce sont les personnes qui reçoivent la parole de Dieu parmi les soucis de la vie, parmi les préoccupations qui leur prend le temps. Et donc, la parole de Dieu ne peut pas fructifier, ne peut pas produire du fruit. Elle est étouffée, elle est rendue infructueuse. Et le quatrième terrain, donc la bonne terre, là où le grain tombe et il y a un rendement très important. Alors vous voyez le rendement, un grain peut produire 30, 60 et 100. Alors pourquoi cette différenciation? C'est simplement une question, oui, on n'obéit pas, hein, même ceux dont le bon grain est tombé, le degré d'obéissance n'est pas le même. Donc ceux qui ont la propension à obéir tout de suite peuvent aller jusqu'à 1 grain pour cent. Alors, je regardais un tout petit peu. En fait, ce sont des rendements exceptionnels. Même avec nos engrais, nos machines agricoles, etc., etc., pour le blé, par exemple, le rendement moyen est d'un grain pour 50. Regardez là. 1 grain pour 30, 60, et même 100. Déjà, pour l'époque où il n'y avait pas d'engrais, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est une moisson exceptionnelle. Et c'est ce qui va arriver. Il y aura un moment où la moisson de Dieu sera vraiment exceptionnelle quand les anges de Dieu, quand le Seigneur enverra ses anges aux quatre coins des cieux parce que la moisson est mûre, pour couper la moisson, et là il y aura une moisson très abondante. Donc voilà la parabole du semeur. Il y a ensuite, et je vais aller assez rapidement sur les deux autres paraboles, la parabole de la semence qui grandit toute seule. Si on va au chapitre 4, versets 26 à 29, si quelqu'un peut lire.
Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là.
Voilà. Alors Marc est le seul à rapporter cette parabole hein, par rapport à Luc et à Matthieu. On peut l'interpréter de plusieurs manières différentes, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est une parabole. D'abord, l'homme qui jette la semence, ça peut être Jésus lui-même, hein, qui a jeté la semence sur terre pendant son ministère public, quand il était ici sur terre. Après, il est monté au ciel, et la semence a continué à pousser de manière mystérieuse depuis son ascension, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure où on parle. Et il va en être de même jusqu'à ce qu'il revienne. Mais l'homme peut aussi désigner tout disciple dont la responsabilité consiste à jeter la semence, et qu'il dorme, qu'il veille. En fait, il ne sait pas comment cette semence va grandir. Et souvent, nous, on s'inquiète. On a évangélisé, on a donné des traités, on a invité des gens, ils ont entendu la parole. Mais qu'est-ce qui va advenir? Est-ce qu'il y aura de la moisson? Est-ce que ces gens vont accepter le Seigneur? Ce n'est pas notre job, ce n'est pas notre problème. Dieu nous demande à nous de mettre la semence en terre, d'arroser, mais c'est lui qui fait pousser. Ce n'est pas à nous de nous inquiéter si le grain va pousser ou pas. Voilà donc la parabole de la semence. Il reste une dernière parabole parmi les paraboles de la semence, c'est le grain de sénévé. Versets 30 à 34, est-ce que quelqu'un peut lire les versets 30 à 34?
Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé, qui lorsque l'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Et lorsqu'il a été semé, il monte, devient le plus grand, devient plus grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre.
Oui, jusqu'au verset 34, oui.
C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'il était capable de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples.
Voilà, donc nous n'avons pas la totalité des paraboles, hein? Sinon peut-être qu'il n'y aurait pas assez de livres pour les mettre. Alors, cette parabole compare la croissance du royaume à celle d'une petite graine de moutarde. C'est vrai que les commencements ont été pénibles, rappelons-nous, hein, dans le livre des Actes, les apôtres vraiment persécutés, etc., etc. Ça a commencé tout petit, tout petit, tout petit. Et puis maintenant, le christianisme s'est étendu sur la planète Terre toute entière. Donc, il y a eu des progrès énormes d'évangélisation. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont allés aux quatre coins du monde pour annoncer la parole de Dieu. Mais il y a un mais. Quand il y a une croissance, l'ennemi ne reste pas les bras croisés. Il va essayer de pervertir cette croissance. À un point tel que le christianisme, à un moment donné, et peut-être même au jour d'aujourd'hui, est devenu une religion d'État pour certains gouvernements. C'est devenu une religion d'État. Donc, c'était obligatoire d'être chrétien. Et donc, les églises se sont remplies. Beaucoup, beaucoup de, entre guillemets, chrétiens. Mais malheureusement, tous ceux qui confessaient le nom de Jésus n'étaient pas forcément tous nés de nouveau. Et donc, il y avait beaucoup d'oiseaux, c'est-à-dire des animaux à la fois purs, mais aussi des oiseaux impurs, qui se réclamaient du nom de Jésus-Christ. Parce que dans la Bible, les oiseaux ne sont pas forcément des animaux purs, hein. Il y a aussi des oiseaux impurs. Donc, dans l'Église, il y a eu un mélange. Un mélange parce qu'il y a eu une ouverture. Le christianisme s'est, a collaboré avec le pouvoir temporel. Le christianisme est devenu une religion d'État. Et malheureusement, on a baissé l'exigence de l'évangile. On a perverti, on a donné un évangile, on va dire, oui, adapté à ce que les gens voulaient recevoir. Un évangile maintenant de prospérité pour attirer tous ceux qui malheureusement sont pauvres et qui veulent accéder à une certaine richesse. Ça a beaucoup de succès dans ces pays-là, l'évangile de la prospérité. Bref, le grain de sénevé a rempli toute la terre, mais ce n'est pas forcément un grain pour 100. Non. Voilà. Et au milieu, et c'est par là qu'on va terminer, au milieu de ces paraboles sur la semence, il y a un intrus qui est la parabole de la lampe. Est-ce qu'on peut lire cet intrus, versets 21 à 25?
Et il leur dit aussi, est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous une mesure à grain ou sous un lit? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur un pied de lampe? Tout ce qui est caché doit être mis en lumière, tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il ajouta, faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer et on y ajoutera. Car à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a.
Alors, quelques explications avant d'étudier cette parabole. La lampe ici, ce sont les vérités que le Seigneur a révélées à ses disciples. Et ces vérités ne devaient pas être placées sous le lit ou sous un boisseau. Le boisseau, c'est une espèce de récipient qui fait environ 9 litres dont on se servait pour les grains, tout ce qui était grains. Était mesuré à l'aide des boisseaux. Et le boisseau aussi représente malheureusement tout ce qui constitue un frein pour l'expansion de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu. Ça peut être notre ego, nos occupations, nos soucis, etc. Ça peut être un boisseau qu'on met sur la lampe. Il est parlé aussi du lit, et le lit ici, ça représente le confort et la paresse. Ah, aujourd'hui il pleut, non, je ne vais pas aller évangéliser, je ne me sens pas bien aujourd'hui, non, je ne vais pas témoigner. Voilà les grands ennemis de l'évangélisation, etc., etc. Alors pourquoi est-ce que c'est surprenant de voir la parole de la lampe ici? Parce que vient faire la parabole de la lampe au milieu des paraboles sur la semence? Dites-moi, est-ce que c'est logique tout ça? C'est complètement illogique, ça n'a aucun sens. Mais en réalité, on va voir que ça a totalement un sens. Pourquoi? Mais parce que cette parabole sur la lampe, en fait, va expliquer l'attitude des trois premiers terrains, même de tous les quatre terrains dont Jésus a parlé dans la parabole du semeur. En effet, le premier auditeur, celui qui est le long du chemin, en fait, il a mis un boisseau sur sa lampe, sur la lampe, sur les vérités qu'il avait reçues. Et son boisseau, c'est quoi? Mais c'est tout simplement son ego qui était surdimensionné. C'était quelqu'un qui avait un cœur dur comme le roc. Et oui, puisque c'est le chemin, à force de passer, il devient dur comme le roc. Le boisseau, pour cet homme-là, c'était son ego. Et comment il a réagi? Il a dit, non, très peu pour moi, hein, ce n'est pas ma tasse de café. Mais par contre, ça serait peut-être bien pour un tel, pour X. Oui, lui, ça lui convient très bien. En fait, il a mesuré X avec son ego surdimensionné. Et X devrait rentrer là-dedans. Et Jésus dit, on te mesurera, toi aussi, avec cette grande règle que tu as utilisée. Ensuite, regardez l'auditeur qui avait le terrain rempli de pierres. Lui aussi, il a mis un boisseau sur sa lampe. Pourquoi? Son boisseau à lui, c'est son ego qui a accepté avec joie les choses de Dieu, mais attention, jusqu'à un certain point, pas au-delà. Je veux bien croire, tant que ça me rend service, tant que c'est dans mon sens à moi. Mais dès que vient la première tribulation, la première contrariété, ah non, 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 il laisse tout tomber. Vous voyez, c'est très important la parabole de la lampe. Ensuite, le troisième auditeur qui avait le terrain épineux, lui aussi, il a mis un boisseau sur la vérité biblique. Il s'est aussi étendu sur un lit. Son boisseau, c'est quoi? Son boisseau, c'est son ego charnel. Mais attention, son ego a accepté, puisqu'on ne parle pas de pierre ici, hein, donc il y a quand même une certaine foi. Son ego a accepté la parole de Dieu, l'a intégré, il a intégré la parole de Dieu. Il a enduré les fortes chaleurs, puisqu'il a quand même des racines. Mais il a reculé devant l'épreuve de la mort à soi-même. La mort à soi-même. Pourquoi? Mais parce que l'emprise exagérée des soucis de la vie, il ne voulait pas y renoncer. Son lit de paresse, c'était les richesses de ce monde et les convoitises charnelles. Or, frères et sœurs, on ne peut porter du fruit qui arrive à maturité que si on accepte la mort de son vieil homme. Les fruits mûrissent généralement à la fin du cycle d'une plante. Ça, on le sait très bien. Les fruits mûrissent ici en France peut-être vers le mois de juillet-août à peu près. Puis après vient l'hiver. L'hiver, c'est le symbole de la mort. Donc, tant que la plante a encore ses feuilles, tant que la plante vit pour elle-même, elle ne porte pas de fruits, mais elle porte des feuilles. Mais pour porter du fruit qui arrive à maturité, il faut que la plante perde ses feuilles et accepte la mort à soi-même. Fini le lit de paresse, fini l'ego surdimensionné, fini les richesses de ce monde, fini les convoitises charnelles. Si on n'accepte pas ça, frères et sœurs, on est dans le troisième terrain épineux. Quand bien même on aurait accepté un certain brisement, quand bien même on aurait accepté une certaine persécution, etc., etc. La mort à soi-même, un caractère totalement changé, une vie complètement nouvelle, qui n'a rien à voir avec la vie d'antan, méconnaissable. Mais l'auditeur du quatrième terrain, lui, le Seigneur ne dit rien. Mais en revanche, le Seigneur va anticiper sa réaction et le Seigneur voudrait l'encourager. Dans quel sens? Mais c'est la parabole du grain qui grandit tout seul. Il voudrait lui dire, ne t'en fais pas. Tu as accepté le brisement total, tu as accepté la mort à toi-même et tu te poses la question de savoir, est-ce que tu ne t'es pas trompé? Pourquoi ça ne porte pas de fruits? Pourquoi j'ai beau évangéliser, ça ne marche pas? Ne t'en fais pas. Fais simplement ton job. Tu lances la semence, tu arroses, et le restant, c'est Dieu qui s'en occupe. Donc, c'est un encouragement, la parabole donc, du grain qui grandit, qui est la plante qui grandit toute seule, qu'on veille ou qu'on dorme. C'est un encouragement pour celui du quatrième terrain. Et ça, c'est la parabole de la lampe qui nous dit ça. Et aussi, la parabole de la lampe parle aussi du grain de sénévé, la parabole du grain de sénévé. Pourquoi? Mais parce que le grain de sénévé, c'est quoi? Ce sont des missionnaires qui sont partis à gauche, à droite pour évangéliser. Et ces missionnaires-là, c'était donc des personnes qui appartenaient au quatrième terrain, ceux qui ont accepté la parole de Dieu avec foi. Tellement leur cœur a été touché qu'ils ont eu envie de partager cette parole avec les autres. Et donc, ils sont partis aux quatre coins du monde, en bravant tout ce qu'il y a de danger, tout ce qu'il y a de... Enfin, tout ce qui peut arriver à quelqu'un qui part dans un pays où il est inconnu. Alors, le Seigneur dit, c'est très bien, mais malheureusement, la première génération a fait de belles choses. La deuxième génération a fait de belles choses. La troisième, et petit à petit, au fur et à mesure des générations, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que les chrétiens, les églises qui avaient été implantées par des hommes de foi, quelques années, quelques siècles plus tard, plus rien. Plus rien du tout. Où sont passées les églises du livre de l'Apocalypse? Où sont-elles passées? Et pourquoi cela est-il arrivé? Parce que l'Église a baissé le niveau des exigences de la parole de Dieu. Parce que l'Église a prôné l'évangile du mélange. Parce que l'Église a prôné l'évangile de la prospérité. Parce que l'Église s'est alliée au succès populaire et politique. Tous les oiseaux purs et impurs sont rentrés dans l'Église. Et au jour d'aujourd'hui, il y a un mélange, un chaos total, une cacophonie dans l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a qu'à lire les réseaux sociaux, il n'y a qu'à lire tout ce qui se passe sur Internet. Et je voudrais terminer là-dessus. En attendant le retour de Christ, nous devons résister à l'épreuve du temps. Nous devons veiller sur la parole de Dieu. Nous devons refuser tout pacte avec le monde, tout pacte avec le pouvoir temporel. Ne jamais baisser la garde. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Jamais, jamais, jamais baisser la garde. C'est vraiment à ce prix que notre Église, que l'Église de Jésus-Christ sera triomphante. La preuve, nous n'avons plus les belles églises que les apôtres, que les hommes de foi, les Spurgeon, les Hudson Taylor, etc. Tout ce qu'ils avaient fait, malheureusement, beaucoup de choses sont maintenant tombées à nous. Alors, frères et sœurs, c'est vraiment un appel solennel que le Seigneur nous lance ici. Soyons sérieux dans notre engagement pour le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Quelqu'un peut prier.
Que nous avons tant besoin de vraiment rester sur la pêche, de vraiment veiller, de prier, parce que oui, le diable ne vienne pas mettre des bâtons dans nos roues afin de nous éloigner de toi, afin de proclamer un autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ, que la bonne nouvelle, celle qui nous sauve, Seigneur. Nous voulons à force fort te louer, te remercier justement pour ta parole qui l'a débuté, pour ce rappel de ces paraboles, qui nous rappelle que, oui, attention de ne pas croire que nous sommes arrivés, mais de rester veillant, l'apôtre Paul il le dit, ce n'est pas que j'ai atteint le but, mais je cours toujours dans cette carrière pour toujours te connaître davantage, et Seigneur, donne-nous à cœur vraiment la humilité de rester aussi fidèle à ce que tu nous as donné, cette lettre. Ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions rester debout, ne pas avoir honte de ce que nous pouvons faire dans nos vies, rester vraiment contents. que je crois, le Seigneur, nous savons que notre vie est bien disposée, mais c'est comme le Seigneur qui nous dit et qui nous dirige. Alors, c'est vrai, Seigneur, que parfois, nous pouvons être inquiétés, mal vus, mais nous voulons rester fidèles à ce que toi tu as enseigné, de la Genèse jusqu'à la Totalité. Que ta parole est la vérité, et tu ne permets pas que ta parole fasse le ciel et la terre passeront, mais puisque tu nous dis, Seigneur, viens et vivra jusqu'à ce que tu reviennes au nom de Jésus. Alors, Seigneur, viens à chacun de nous, demande d'avoir ce cœur vrai et sincère, de rester, de ne pas vouloir faire tout, vouloir savoir et tout vouloir apporter. Simplement, Seigneur, de rester fidèle à toi. Merci encore de cette étude encore où tu nous parles. Merci aussi parce que nous devons demain être concentrés sur ce qui est spirituel et pas sur les choses naturelles. Que nous te mettons demain à la première place dans toutes les choses, malgré peut-être les obstacles que nous pouvons rencontrer. Merci de nous conduire à chacun de nous, de conduire tous nos bien-aimés, que chacun de nous puissions être vraiment ce sel de la terre, ce flambeau, que tu te serves chacun de nous à être, Seigneur, comme toi tu le veux, vraiment être des pierres vivantes pour ton royaume, Seigneur, afin que les autres puissent, Seigneur, à travers notre exemple, notre témoignage, puissent venir aussi. À toi, Seigneur. Merci de réconfort de ce que tu nous donnes à travers ta parole, parce que c'est vrai, comme on a été rappelé, ta parole est comme une épée à deux tranchants, qui nous fait vraiment saisir ce qui vient de toi. Alors, merci, Seigneur. Nous te rendons grâce pour votre histoire. Je vous demande de nous accompagner à chacun de nous et que c'est par la parole que nous avons vu, ne soit pas simplement. Comprise pour aujourd'hui, demain matin, et petit à petit, nous oublions, Seigneur. Que nous restions vraiment attentifs à tout ce que tu nous apportes. Nous te rendons grâce.